RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Au Mali, nous vous en parlons tous les jours, la population vit une période très difficile. Le nord du pays est occupé par les groupes islamistes armés, le sud du pays est en proie à une profonde crise politique et l'ensemble du pays subit une récession économique sans précédent. Et comme souvent dans ce genre de contexte, les femmes ne sont pas seules victimes, mais sont en première ligne, les plus exposées à certains dangers. Grand Reportage vous propose donc aujourd'hui une série de témoignages exclusivement féminins. Elles vivent toujours au nord, elles sont déplacées à Bamako avec leurs enfants ou sont ressortissantes de la capitale. Le Mali va mal et parle ces femmes. Grand reportage signé David Bachet. David que l'on retrouve pour en parler en direct dans un quart d'heure.
Les femmes, les maliennes, les moussos, comme on dit en Bambara, sont les premières victimes de la crise actuelle et ont été principalement affectées par la situation au nord. Ce constat, sans appel, c'est l'Organisation des Nations Unies qui le dresse, plus précisément le Secrétariat Général aux Droits de l'Homme. Cela fait plus de 6 mois que le Nord Mali est occupé par des groupes armés. Après les indépendantistes Touareg du MNLA, ce sont les islamistes d'Ansar Dine, du Moudjahou et d'Acmi qui en ont pris le contrôle, imposant leur conception de la charia, des droits de l'homme et de la liberté des femmes.
Je suis Madame Touré Oulema Toumaïga. Je suis la directrice du centre d'animation pédagogique de Gao. Je vis toujours actuellement à Gao. Je suis venue uniquement pour cette réunion.
À Bamako. Pour une réunion.
Voilà. Les femmes à Gao sont vraiment à l'écart de tout. Elles ne doivent pas se promener avec des hommes. Ton fils ne peut pas te prendre en moto, tu ne peux pas aller au marché, tu ne peux pas aller au fleuve te laver. Et moi, en tant que directrice de CAP, je n'ai pas le droit de faire une réunion avec mes directeurs d'école, je n'ai pas le droit de parler à la radio. Donc tout a changé. En sortant, il faut se camoufler, presque, se camoufler.
Ça veut dire porter un long voile ?
Un long voile, il n'y a que les yeux qui sortent jusqu'aux mains. Moi, je suis obligée de rester à la maison parce que je ne peux pas me voiler, surtout en période de chaleur, porter ce voile qui est très chaud à l'intérieur.
Au quotidien, qu'est-ce qui se passe si vous ne faites pas ça ?
Si on ne fait pas ça, on peut vous chicoter.
Vous fouettez ?
L'autre jour, les Moujaos rentraient de famille en famille. Quand ils trouvent une femme assise qui ne porte pas le voile, ils peuvent même chicoter cette femme. Ces derniers jours, ils ont pris le micro pour dire qu'ils font une sensibilisation au niveau des marchés. Ils disent aux femmes, portez le hijab, c'est mieux, sinon vous marchez nu.
Vous-même, vous êtes directrice d'école. Est-ce que vous pouvez continuer à travailler de la même manière ?
Justement, je ne peux pas continuer à travailler. On est en train de me discriminer parce que mes autres collègues travaillent bien dans leur service.
Les hommes ?
Moi, oui, les hommes travaillent bien dans leur service, mais moi, je ne peux pas. Je n'ai même pas le droit de faire des réunions avec les hommes dans le cadre de mon travail. À Gao particulièrement, le social est géré par les femmes. Et on ne peut même plus aller au lieu de décès, au lieu de baptême. Parce que chaque fois, il faut que les hommes se séparent des femmes. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé.
Le quartier de Yirimadjo, en périphérie de Bamako. Une maison grise, inachevée, béton brut et pièces vides qui résonnent. C'est là que vit une partie de la famille Sissé, une quinzaine de personnes débarquées progressivement de la région de Tombouctou.
Je m'appelle Balkissa Keïta, Madame Sissé Balkissa Keïta. Je viens de Gounda. On est venu ici le 17 juillet.
Quand ils sont arrivés, tout a changé. Là-bas, tu ne peux plus aller au marché sans voile. Tu n'as pas le droit de discuter avec un homme s'il n'est pas ton mari. Tes propres fils, tu n'as pas le droit de te promener avec eux. Si tu veux leur parler, il faut rester chez toi. Alors je m'enfermais et je restais cloîtrée comme ça, nuit et jour. Rien que de les voir passer dehors dans leur voiture avec leurs armes, j'avais trop peur. Les fois où je sortais seule, ils m'arrêtaient dans la rue et me demandaient où j'allais. À 3 reprises, ils sont venus chez moi me demander où était mon mari. Mais je leur ai expliqué qu'il était retraité et qu'il était parti à Bamako pour accompagner mon fils qui devait passer son diplôme de fin d'études.
Pendant ces quelques mois, comment vous avez vécu ?
On a peur.
J'avais peur. Toute la journée, je gardais portes et fenêtres fermées. Et le soir, je me couchais à 19h. Je ne fais jamais ça. Mais là, j'avais tellement peur. Et je ne pouvais même pas regarder la télévision ni écouter la radio. C'était interdit. À présent, j'ai rejoint mon mari et je suis ici à Bamako. Je mange, je dors, mais je ne suis pas tranquille. J'ai quitté ma maison et ça me rend triste. Je voudrais pouvoir rentrer vivre chez moi.
Mais les pires violences faites aux femmes dans le Nord Mali sont d'un autre ordre. Des cas de mariage forcé seraient devenus fréquents et les femmes seraient vendues et forcées de se remarier, rapportent les Nations Unies, qui dénoncent une forme de viol et d'exploitation sexuelle, pointée depuis des mois déjà par de nombreuses organisations non gouvernementales. Khadija Idara Sissé, arrivée de Gundam il y a un mois, et Oulematou Maïga, qui vit actuellement à Gao.
Les jeunes filles, ils leur frappent, ils leur font tout la nuit. S'ils rencontrent une jeune fille et un homme, ils leur frappent, l'amènent à leur police. Islamique.
Il y a eu des violences sexuelles spécifiques contre les femmes ?
Si, les jeunes filles.
Vous connaissez des femmes à qui c'est arrivé ?
Non, ils font ça dans les brousses.
Ils font ça en brousse, loin de la ville.
Les Bella et les Touareg et les Pelles.
Ils s'en prennent aux Bella, aux Touareg et aux Pelles ?
Les Pelles sont dans la brousse avec leurs bergers. Ce sont à eux qu'ils font.
Parce que ce sont des personnes isolées.
C'est ça.
On parle aussi de cas de mariage forcé. Est-ce que vous avez été témoin de ça ?
Non. Mais chez nous, à Haribanda, leur police islamique, il l'a donné une fille, mais 7 personnes sont engagées pour la fille. 7 personnes. Ce n'est pas un mariage. La nuit, 7 personnes qui viennent pour la fille.
Ça, vous avez vu ça à Gundam même ?
C'est fait à Haribanda, à Gundam, dans un quartier. C'est fait là-bas. Mais la fille a fui.
Des jeunes filles ont été violées. Des femmes ont été harcelées. Et des femmes mariées même ont été contraintes de se marier avec ces Moujaou. Ils ont fait beaucoup de mariages à Gao et des femmes d'autrui. Je connais quelques-unes de ces femmes.
Alors, beaucoup préfèrent partir. Depuis 6 mois, plus de 435 000 personnes ont fui le Nord Mali. Parmi elles, de nombreuses femmes ont trouvé de l'aide auprès de l'AME, l'Association malienne des expulsés, où elles viennent raconter leur histoire.
Je m'appelle Oum Traoré, j'ai 35 ans, je viens de la ville de Gao. On est là à Bamako, il y a 4 mois. Je suis venue avec ma famille, toute ma famille, ma mère, mes enfants.
Et votre mari ?
Bon, mon mari, il est décédé.
Excusez-moi.
On est fatigué, le voyage n'était pas facile parce que les cars sont remplis, il n'y a pas de place. Tout le monde veut venir à Bamako, donc c'est un embouteillage total.
À Gao, comment vous faites pour subvenir aux besoins de la famille ? Vous travaillez ?
Oui, je suis enseignante.
Et c'est vous-même qui faites vivre toute la famille ?
Oui, avec mon grand frère. Lui, il est tailleur. Il est toujours à Gao aussi. Il est resté là-bas parce qu'il n'y a personne dans la maison qui garde la maison. Il y a nos effets, il y a tout. Parce donc, que quand nous sortons, les cars ne peuvent pas prendre des bagages. Même si tu as une valise qui est grande, on ne peut pas prendre ça. Parce qu'il n'y a pas de place.
Depuis que vous êtes à Bamako, est-ce que vous travaillez ?
Non, je ne travaille pas.
Et du coup, comment vous faites pour gagner votre vie et pour subvenir aux besoins de la famille ?
On a des parents ici, il y a des gens qui nous aident petit à petit. Ça pose des problèmes parce que Bamako est très cher, très difficile. Il y a des gens qui sont à Bamako, tu ne peux pas mener ta famille et déposer ça sur une autre famille. C'est très difficile, donc on est obligé de prendre un appartement en location. Ma mère, moi et mes enfants, 2 enfants, 2 filles.
Donc c'est une maison avec uniquement des femmes en fait ?
Oui, une maison avec des femmes vraiment.
Et cette maison, c'est donc la famille ici à Bamako qui arrive à vous la payer ?
Oui, bon, on est là, donc on est obligé. Je vis cette situation dans le malheur. Vraiment, je suis en colère, je suis triste, parce que je ne parviens pas à satisfaire très bien ma famille.
À chacune son itinéraire, pour toutes les mêmes problèmes. Les histoires se succèdent, les femmes se racontent.
Je m'appelle Ina, Inassi. J'ai 41 ans et je viens de Gao. Ça fait 4 mois que je suis à Bamako. Quand les groupes armés sont arrivés, toute notre famille est restée enfermée 4 jours dans la maison, sans presque rien manger. De la bouillie et de l'eau, c'est tout. Nous les voyons passer au dehors par la fenêtre. Ils ne nous ont pas obligés à rester enfermés, mais nous avions peur à cause des coups de feu. Au bout de 4 jours, les vieux sont sortis et ont supplié les rebelles de ne pas tirer. Ils leur ont dit que nous avions peur et que nous voulions juste aller chercher à manger. Là, nous avons pu sortir et cela a continué comme ça pendant 6 jours.
Au bout d'une dizaine de jours, vous avez décidé de quitter Gao. Dans quelles conditions est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous êtes parti avec vos enfants, avec votre mari?
Mon mari a refusé de partir. Alors j'ai vendu tous nos moutons, j'ai pris mes 7 enfants avec moi et nous avons pris la route. Ça nous a coûté très cher, 60 000 francs CFA, 90 euros. Mon mari, lui, a préféré ne pas venir à cause du manque d'argent. Il ne voulait pas arriver à Bamako et vivre au crochet de qui que ce soit.
Et depuis que vous êtes ici à Bamako, ça fait donc 4 mois, comment ça se passe pour vous et pour vos enfants ?
Depuis notre arrivée, nous vivons chez ma grande sœur qui nous prend tous en charge. Mais c'est très dur parce que je n'ai pas d'argent à lui donner. Les enfants n'ont pas de matelas pour dormir, on manque de nourriture. En l'absence de mon mari, c'est moi qui dois jouer le rôle de chef de famille, m'occuper des dépenses, subvenir à nos besoins. Il y a trop de difficultés.
Quand vous dites que vous devez faire toutes les dépenses, comment est-ce que vous faites pour trouver l'argent ? Est-ce que vous faisiez un métier à Gao ? Est-ce que vous en faites un autre ici ?
Non, je n'ai pas de travail. J'essaye de me débrouiller comme je peux pour amener à manger. Quand je ne trouve pas, je vais mendier auprès de nos voisins, une famille aisée qui me donne souvent du riz. Dans ce cas-là, je le donne aux enfants, mais il arrive qu'ils aillent se coucher sans avoir dîné. Mon mari, lui, travaillait avec les touristes. Il était guide, cuisinier. Il s'est toujours occupé de tout. Moi, je ne gagnais pas d'argent, mais aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus de travail.
Est-ce que c'est difficile pour vous, pour vos enfants, d'être séparés de votre mari en ce moment ?
Oui, bien sûr. Surtout que nous n'avons même pas de maison ici, les enfants et moi. Alors j'ai très envie de retourner à Gao pour qu'ils retrouvent leur papa. Et souvent, les enfants le réclament. À moi aussi, il me manque. Mais nous n'avons pas d'argent et nous ne pouvons pas rentrer.
Mais les femmes du sud du Mali, elles aussi, connaissent le poids de difficultés nouvelles. Depuis le coup d'état militaire du 22 mars, les ressortissants étrangers ont quasiment déserté le pays et les aides internationales ont été suspendues. Résultat, l'économie malienne tourne au ralenti.
Je m'appelle Madame Keïta Kadja Kamara. Le magasin s'appelle Jara Shop.
Et vous vendez quoi ?
Des articles féminins, des sacs, des chaussures, des habits d'enfants. Ouais.
Et les affaires, ça marche bien ?
Avant, ça marchait, mais maintenant, on a pas mal de problèmes qui se passent au Mali. C'est beaucoup ralenti.
Vous, par exemple, vos revenus, ça les a fait baisser sensiblement ?
Très, 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 très baissés. Je ne sais même plus comment m'en sortir avec les loyers. Il faut payer la banque, l'électricité, tout, tout, tout. Donc, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. On ne vend pratiquement plus rien. C'est baissé de à peu près 75%. On ne sait même plus comment joindre les deux bouts. On ne sait pas. J'ai des enfants, il y a les parents, il faut les aider. Moi, j'ai 6 garçons. Dans la famille, on nourrit plus de 25 personnes.
Et votre mari travaille, il a des revenus ?
Il travaille. Bon, il est fonctionnaire, il fait de son mieux.
Donc il y a quand même un autre salaire à la maison ?
Oui. Pour le moment, on arrive quand même à... Avec le peu d'économie qu'on a, on arrive à nourrir la famille. Chercher à manger, les médicaments, c'est ce qui est important. En dehors de ça, on ne peut plus rien faire.
Un quotidien devenu difficile pour les classes les plus aisées et carrément intenable pour les plus modestes, comme cette vendeuse du marché de Segeninkoro à Bamako.
Elle dit qu'elle s'appelle Sitan Keita. Elle vend du poisson frais. Elle dit maintenant que le poisson ne s'achète pas comme avant. Depuis que la crise s'est déclenchée, elles ont eu beaucoup de problèmes. Avant, elles avaient toutes les dépenses pour les enfants. La quantité de poisson que vous voyez maintenant dans la tasse, je pouvais vendre 4 fois cette quantité. Mais aujourd'hui, je ne vois même pas la moitié de cette quantité. Donc ça ne va pas. Je n'ai pas les dépenses de mes enfants. C'est les enfants qui m'inquiètent beaucoup. Elle a 7 enfants.
Et est-ce que vous avez un mari qui rapporte de l'argent à la maison ?
Mon mari était un maçon. Il faisait des constructions. Maintenant, les gens ont des problèmes avec la crise. Qui va construire ? Qui va appeler un maçon pour travailler ? Donc mon mari n'a plus de revenus. C'est le seul poisson que moi je vends pour subvenir aux besoins de mes enfants. Et ce même poisson ne s'achète plus. J'avais 3 repas principaux dans la journée. On mangeait le matin, on mangeait à midi et on mangeait le soir. Maintenant, on a un seul repas et qui n'est pas un repas rentable même. Parce qu'avant, on faisait du poisson, on faisait la viande, on faisait les pâtes.
Maintenant, on ne fait plus de pâtes et on ne mange plus du poisson comme avant. On n'a pas de viande. Moi, je fais de la bouillie à la place du poisson.
Depuis qu'elle est nana.
Avant, moi, j'étais très grosse. Les femmes qui vendent du poisson, elles sont toutes grosses parce que le poisson est très vitaminé. Maintenant, comme on ne trouve pas assez de poissons à manger, regarde moi-même maintenant. Moi, je suis maigre par rapport à avant la crise.
Au sein des organisations féminines, on espère que les mots actuels permettront de changer les choses, d'éveiller les consciences et de renforcer les droits des femmes pour demain. Le Mali va mal et parle ses femmes. Réalisation Marc Minatel. Un grand reportage de David Baché.
David Baché, bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage, tout juste de retour du Mali. Après tous les témoignages difficiles que vous nous avez présentés, vous concluez votre reportage sur cet espoir des associations féminines qui espèrent, dites-vous, que les mots actuels vont permettre de changer les choses, d'éveiller les consciences et de renforcer le droit des femmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire qu'aussi dure que soit la situation, elle peut au moins servir à aller de l'avant. Je m'explique. Pour beaucoup de Maliens, ces derniers mois ont servi de déclic politique. Au lieu de regarder les événements et les présidents passés, on commence à s'intéresser, à s'impliquer. Le fait que la situation ait atteint ce point extrême a poussé les Maliens à se politiser. Il y a ceux qui l'étaient déjà, bien sûr, mais les autres, eh bien, c'est la colère qui, aujourd'hui, les a remobilisés sur le front politique. Parce que tous les jours, évidemment, on parle de la situation. Eh bien, du côté des associations féminines, sur la question du droit des femmes, c'est exactement le même raisonnement. Il y a cette idée que les femmes ont été victimes de violences si graves que ça peut permettre à la société malienne de se réveiller. C'est ce que me confiait notamment Madame Dembélé Oulema Tousso, qui est la présidente de la FENACOF, un collectif d'organisations féminines. On ne l'entend pas dans le reportage parce que j'ai préféré laisser la place au témoignage, excusez-moi Madame Dembélé, mais du coup je profite de ce moment pour vous rappeler en quelques mots ce qu'elle me disait. Elle ne parlait pas tant des agressions dont les femmes sont victimes dans le Nord, parce que là la situation ne pourra se régler que lorsque les groupes islamistes cesseront d'occuper le territoire, quelle que soit la manière, et qu'il sera à nouveau permis aux femmes qui vivent dans le Nord de parler avec des hommes dans la rue, ce qui ne fait pas débat au Mali. Mais donc, Madame Dembélé me parlait de son combat, plus généralement, pour les droits des femmes et pour le statut de la femme au Mali.
Un statut qui a été, rappelons-le, d'un mot particulièrement mis à mal, avec le Code de la famille promulgué en janvier dernier.
Exactement, et ça c'est l'un des exemples, le premier même que me prenait Madame Dembélé. Alors, pour les auditeurs qui ne s'en souviendraient pas, le Code de la famille, c'est un épisode majeur de la politique malienne de ces dernières années. En 2009, le premier projet de ce texte de loi prévoyait d'accorder davantage de droits aux femmes. Mais le Haut Conseil islamique malien s'est radicalement opposé au projet. Il a mobilisé ses forces pour protester contre le texte. D'importantes manifestations ont eu lieu. Et le Haut Conseil, donc, a réussi à complètement retourner la situation, puisque le texte qui est finalement entré en vigueur au mois de janvier de cette année, a au contraire consacré un recul des droits des femmes. L'âge légal du mariage est passé de 18 à 16 ans. Les femmes ont aussi été lésées sur la question de la garde des enfants ou sur les héritages. Et donc, aujourd'hui, même s'il est un peu délicat d'anticiper sur les mois à venir en ce moment, le fait est que le Mali connaît une période transitoire qui va aboutir à des changements. La question du Nord doit être réglée, ensuite des élections devront être organisées, et ce sera alors peut-être le moment de faire table rase d'un passé où le statut des femmes laisse à désirer. Je n'ai même pas parlé de la différence homme-femme pour l'accès à l'éducation, le taux d'alphabétisation. Et donc, c'est cela que les organisations féminines représentées au sein de la FENACOF espère.
Ce sera le mot de la fin, David Baché. Merci beaucoup. Au micro, Laurence Adou. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Et travaillons à la beauté des choses.